7. Mais tout cela ne constitua que le prologue de la véritable horreur à Dunwich. Des fonctionnaires dépassés se chargèrent des formalités nécessaires. On ne divulgua pas à la presse ou au public les détails anormaux, et on envoya à Dunwich et à Aylesbury du personnel chargé d'inventorier la propriété et de prévenir de son décès les éventuels héritiers du feu Wilbur Whateley. Les agents trouvèrent la région plongée dans une grande agitation. D'une part, parce que les grondements sous les collines en dôme n'avaient cessé de s'intensifier. D'autre part, parce que l'affreuse puanteur et les bruits de déferlement liquide et de clapotis s'étaient eux aussi amplifiés dans la vaste coquille vide que formait la ferme barricadée des Whateley. Earl Sawyer, chargé de s'occuper du cheval et du bétail en l'absence de Wilbur, était à bout de nerfs. Les visiteurs administratifs inventèrent diverses excuses pour éviter de pénétrer dans la bâtisse puante et se contentèrent d'inspecter en une seule fois le logis du défunt et les remises récemment restaurées. Ils établirent un rapport volumineux à l'adresse du palais de justice d'Aylesbury. Il paraît que les litiges concernant la succession de Wilbur font toujours rage entre les innombrables Whateley, dégénérés ou non, de la haute vallée de la Miskatonic. On découvrit sur l'antique bureau du propriétaire, écrit sur les pages d'un énorme livre de comptes, un manuscrit presque interminable, rédigé dans un alphabet bizarre. En raison des variations qu'il présentait dans les encres utilisées et la maîtrise dans la formation des caractères, on estima qu'il s'agissait d'un journal absolument indéchiffrable. Au bout d'une semaine de discussion, on l'envoya à l'université miskatonique, en même temps que les livres étranges du défunt, afin d'études et de, si possible, de traduction. Mais les meilleurs linguistes même comprirent vite que le mystère ne serait pas facile à percer. À ce jour, on n'a trouvé aucune trace de l'or ancien avec lequel Wilbur et le vieux Whateley avaient toujours réglé leurs dettes. C'est au plus noir de la nuit du 9 septembre que l'horreur survint. Ce soir-là, les bruits sous la montagne avaient retenti de manière particulièrement forte. Les chiens aboyèrent sans trêve toute la nuit. Les plus matinaux, le 10, remarquèrent une puanteur bizarre dans l'air. Vers 7 heures, Luther Brown, un garçon qui travaillait chez George Corey, une ferme située entre la combe d'Aigues-Froides et le village, revint en catastrophe avec les vaches de son trajet habituel du matin jusqu'à la pâture 4 hectares. Il entra en trébuchant dans la cuisine, presque convulsé de peur. Dehors, dans la cour, le troupeau, tout aussi effaré, grattait la terre en meuglant piteusement. Les bêtes, saisies de la même panique, avaient suivi le gamin. Entre deux hoquets, Luther s'efforça de bredouiller ce qu'il avait vu à Madame Corey. « Là-haut, sur la route après la combe, Madame Corey, il y a quelque chose qui est passé. Ça pue aussi fort que le tonnerre gronde, et tous les buissons et les petits arbres y sont repoussés au bord de la route, qu'on croirait qu'on a déplacé une maison tout du long. Et c'est point ça le pire. Il y a des marques sur la route, Madame Corey, de grandes marques rondes, grosses comme des barriques, profonde qu'on croirait un éléphant qui était là. Mais à voir, c'est plus que 4 pattes qu'on fait ça. J'ai regardé une ou deux avant que de filer, et j'ai vu qu'elles étaient toutes couvertes de lignes qui partaient du même endroit, même comme si de grandes feuilles de palme en éventail, 2 ou 3 fois plus grosses que tout ce qu'on connaît. Elles avaient été enfoncées dans la route, et l'odeur, elle faisait peur. Qu'on croirait la selle autour de la vieille maison du sorcier Whateley. » Là, le courage lui manqua, et il trembla de nouveau comme si l'effroi qu'il avait fait fuir jusqu'à la ferme lui revenait tout entier. Madame Corey ne put rien obtenir de plus de lui, et entreprit de téléphoner aux voisins, faisant ainsi naître une panique digne des plus grandes terreurs collectives. Quand elle put joindre Sally Sawyer, qui s'occupait du ménage chez Seth Bishop, la propriétaire la plus proche des Whateley, ce fut son tour d'écouter les nouvelles au lieu de les donner. Le fils de Sally, Sean Say, levé tôt à cause d'une mauvaise nuit, avait gravi la colline en direction de la ferme Watley et était revenu au pas de course épouvanté après avoir jeté un coup d'œil au domaine et au pâturage où on avait laissé dehors pour la nuit les vaches de Monsieur Bishop.
« Oui, Madame Corret, »
disait la voix tremblante de Sally sur la ligne téléphonique collective du village.
« Je ne sais, il vient de revenir et il pouvait à peine parler tant l'avait peur. Il dit que la vieille ferme Watley est toute cassée, avec des morceaux de bois partout autour qu'on croirait qu'on l'a dynamité de là-dedans. Il reste que le bas, mais c'est tout couvert d'une espèce de goudron qui pue affreux et qui goûte dans les coins sur le parterre où ce que les murs de bois y ont explosé. Il y a des marques terribles dans la cour, des grandes marques rondes plus grosses qu'un tonneau, et toutes collantes avec le même goudron pareil comme sur la maison éclatée. Chauncey, il dit que les marques émènent dans les pâturages où qu'il y a un grand sentier d'herbe aplatie, plus large qu'une étable et que tous les murets de pierre y sont renversés n'importe comment partout ça passe. Et il dit, Madame Corret, il dit qu'il a voulu aller voir les vaches de cette, même tout affolées qu'il était, et qu'il les a trouvées pas loin dans le champ en haut de la parcelle saut de diable, et que c'était horrible. La moitié y en a pu, et presque la moitié de celles qui restent a été videlées de sang, avec des plaies dessus pareilles à celles des vaches des Watley depuis que le noireau de la vigna est né. Là, cette les partie les voir, mais je vous jure qu'il tient pas à aller trop près de chez le sorcier Watley. Chauncey l'a pas trop regardé où se calait le grand sentier aplati dans la pâture, mais dit qu'il croit que ça partait vers la route de la combe vers le village. Moi, je vous dis, Madame Corret, il y a quelque chose dans le coin qui devrait pas y être, et moi je crois que ce noireau de Wilbur Watley, même s'il a trouvé la méchante mort qu'il méritait, c'était à cause de lui tout ça. L'été pas ben humain lui-même, j'y ai toujours dit, et je crois que lui et le vieux Watley, ils ont élevé quelque chose en dedans dans une maison toute clouée, qui était même pas aussi humain que lui. Il y a toujours eu des choses qu'on voit pas autour de Dunwich, des choses vivantes qu'elles sont pas humaines et pas bonnes pour les humains. La terre a le jasait cette nuit, et vers le matin, Chauncey a entendu les engoulevents qui criaient si fort dans la combe aigue froide qu'il pouvait plus dormir. Alors, elle a cru ouïr un autre bruit pas fort vers chez le sorcier Watley. Une espèce de bruit de bois éclaté ou déchiré, qu'on aurait cru qu'on ouvrait loin une grosse boîte ou une caisse. Et si Amy n'a pas pu dormir du tout avant que le soleil y se lève, et à peine qu'elle était debout ce matin, elle est arrivée chez les Watney pour voir. Pour ça, la vue, je vous dis, Madame Corret, ça peut pas être bon, et moi je crois que les hommes y devraient se rassembler et se bouger. Je suis sûr qu'il y a quelque chose d'affreux et je sens mon heure venue, même si Dieu seul y sait. Votre Luther, l'a vu où ce que les grosses marques elles menaient, non? Eh ben, Madame Corret, si qu'elles étaient sur la route de la combe de côté de la combe, et si qu'elles sont pas arrivées à votre maison, je gâte qu'elles doivent entrer dans la combe même. Pour sûr, j'ai toujours dit que la combe avec froide, c'est point un coin sain et normal. Les engoulevents et les lucioles s'y conduisent jamais comme des créatures de Dieu, et on dit qu'en bas, là-dedans, on peut y ouïr des choses bizarres, qu'elles filent et qu'elles parlent dans l'air, si qu'on se tient où ce qu'il faut, entre la tombée de roc et l'antre de l'ours.
À midi ce jour-là, plus des trois quarts des hommes et jeunes gens de Dunwich s'attroupèrent sur les routes et les pâturages, entre les ruines toutes fraîches du domaine Watley et la combe morte. Horrifiés, ils examinèrent les immenses empreintes monstrueuses, le bétail mutilé des Bishops, les étranges débris de la ferme et la végétation meurtrie et aplatie dans les champs et au bord de la route. Sans aucun doute, ce qui courait librement la région était descendu dans cette grande ravine sinistre, car tous les arbres situés au bord étaient pliés ou brisés. Une large avenue avait été taillée au milieu des broussailles qui pendaient dans le précipice. On aurait cru qu'une maison entière précipitée par une avalanche avait glissé jusqu'en bas à travers l'enchevêtrement de plantes poussant sur la pente presque verticale. Aucun son ne s'élevait du fond de ce précipice, mais on sentait une vague puanteur indéfinissable. Il ne faut pas s'étonner que les spectateurs présents aient préféré rester au bord du gouffre et discuter plutôt que descendre défier jusque dans son antre l'horreur cyclopéenne inconnue. Trois chiens qui avaient accompagné la troupe avaient d'abord aboyé furieusement, mais une fois au bord de la combe, ils parurent effrayés et se turent. Quelqu'un informa par téléphone l'Aylesbury Transcript de l'événement. Le rédacteur en chef, habitué à entendre des récits extravagants en provenance de Dunwich, se contenta d'écrire un petit article humoristique à ce sujet. La société de presse reprit sans tarder l'entrefilet. Cette nuit-là, chacun rentra chez soi pour barricader aussi bien que possible sa demeure et son étable. Inutile de préciser qu'on ne laissa aucun troupeau dehors. Vers 2 heures, une puanteur abominable et les aboiements déchaînés de leurs chiens réveillèrent la maisonnée d'Elmer Fry, sur le bord est de la Combec froide, et tous s'accordèrent pour dire qu'ils entendaient dehors une espèce de froissement étouffé ou de clapotis. Madame Fry suggéra de téléphoner aux voisins. Elmer était sur le point d'approuver quand un bruit de bois brisé interrompit la discussion. Semblant venir de l'étable, il fut rapidement suivi d'affreux cris et de bruits de piétinement du bétail. Les chiens épouvantés se tapirent aux pieds des membres de la famille paralysés par l'effroi. Fry, poussé par la force de l'habitude, alluma une lanterne, mais il savait qu'il trouverait la mort s'il sortait dans la cour noire. Les femmes et les enfants pleuraient. Un mystérieux instinct atavique de survie leur soufflait que leur vie dépendait de leur silence. Aussi ne hurlèrent-ils pas. Finalement, les cris des bêtes dans l'étable se réduisirent à des gémissements pitoyables, auxquels succédèrent de nombreux craquements et bris divers. Les frères, blottis les uns contre les autres dans leur salon, n'osèrent pas bouger avant que les derniers échos se soient éteints tout au bord de la Combec froide. Puis, au milieu des geignements atroces qui provenaient encore de l'étable et des piaillements démoniaques des derniers engoulevents dans la vallée, Célina Fry tituba jusqu'au téléphone et propagea le peu d'informations qu'elle avait. La seconde phase de l'horreur avait commencé. Le jour suivant, toute la région avait cédé à la panique. Des petits groupes d'hommes craintifs et taciturnes vinrent examiner les endroits où la chose abominable était passée. De titanesques avenues de destruction s'étendaient depuis la combe jusqu'à la ferme Fry. De nombreuses empreintes recouvraient des portions de sol nues et un côté de la vieille étable rouge avait été complètement enfoncé. On ne put retrouver et identifier qu'un quart du bétail. Certaines bêtes étaient déchiquetées d'étranges manières et ont dû achever toutes celles qui vivaient encore. Earl Sawyer suggéra qu'on demande de l'aide à Aylesbury ou à Arkham, mais d'autres assurèrent que cela ne servirait à rien. Le vieux Zébulon Watley, et qui appartenait à une branche de la famille oscillant entre santé mentale et dégénérescence, fit d'obscures et délirantes propositions, dans lesquelles il était question de rites à pratiquer au sommet des collines. Issu d'une lignée où les traditions restaient vivaces, il conservait le souvenir de psalmodies au milieu des grands cercles de pierres levées, qui était sans aucun rapport avec Wilbur et son grand-père. Le soir tomba sur une population abattue, trop passive pour organiser une véritable défense. Dans certains cas, quelques familles du même clan se rassemblèrent sous un unique toit pour surveiller les ténèbres nocturnes, mais d'une manière générale, les gens se barricadèrent chez eux comme la nuit précédente et reproduisirent les mêmes gestes vains et inutiles, consistant à charger d'antiques mousquets et à placer des fourches à portée de main. Toutefois, rien ne se produisit, à part quelques grondements sous les collines. Quand le jour revint, beaucoup se prirent à espérer que cette nouvelle horreur eût disparu aussi vite qu'elle était venue. Certaines âmes hardies évoquèrent même l'éventualité d'une attaque de la combe, mais elles n'allèrent pas jusqu'à montrer l'exemple à la majorité encore réticente. La nuit revenue, on se barricada de nouveau, mais il y eut moins de regroupements de familles. Le lendemain matin, les maisonnées Fry et Bishop rapportèrent toutes les deux que leurs chiens s'étaient agités et qu'elles avaient perçu de vagues sons et des relents nauséabonds lointains, tandis que des explorateurs matinaux remarquaient avec effroi de nouvelles empreintes monstrueuses sur la route contournant Sentinel Hill. Comme 2 jours auparavant, les bords du chemin montraient une végétation meurtrie qui trahissait le volume prodigieusement énorme de l'horreur en marche. Mais cette fois, La disposition des empreintes évoquait un passage de la chose dans les deux sens, comme si la montagne mouvante s'était sortie de la combec froide pour y revenir par le même trajet. Au pied de la colline, une voie de 10 mètres de large de buissons et d'arbustes écrasés montait en suivant la pente raide vers le sommet, et les témoins s'effarèrent de constater que la trajectoire inexorable ne déviait pas, même lorsqu'elle franchissait des parois abruptes. Et quelle que fût la nature de cette abomination, elle pouvait escalader une falaise presque verticale. Quand on voulut approfondir la question et qu'on parvint au sommet de l'éminence par des routes plus sûres, on vit que la voie se terminait là, ou plutôt en repartait. C'était là que les Watelais avaient coutume d'allumer leurs brasiers infernaux et d'accomplir leur haïssable rituel à la nuit de Valpurgis et à la Toussaint, près de la pierre tabulaire. À présent, cette roche se recouvrait au centre d'un vaste espace piétiné par l'horreur titanesque, et sur sa surface légèrement concave, s'étalait un épais dépôt puant de la substance collante et bitumineuse qu'on avait remarquée sur le sol de la ferme Watelais après l'évasion de la créature. Les hommes s'entre-regardèrent en marmonnant, puis observèrent le bas de la colline. Apparemment, le monstre l'avait redescendu en suivant presque le même trajet que lors de son ascension. Émettre des hypothèses était futile. La raison, la logique, les motifs imaginables ne correspondaient plus à rien. Seul le vieux Zébulon, qui n'accompagnait pas le groupe, aurait pu interpréter la situation ou suggérer une explication plausible. La nuit du jeudi débuta comme les autres, mais se termina beaucoup plus mal. Dans la combe, les engoulevents avaient piaillé avec une insistance si inhabituelle que beaucoup d'habitants ne purent fermer l'œil. Et vers 3 heures, tous les téléphones de la ligne collective firent entendre leur sonnerie grêle. Ceux qui décrochèrent entendirent une voix folle d'épouvante s'écrier « À l'aide ! Au Dieu !» Certains eurent l'impression qu'un bruit d'écrasement suivit l'interruption de l'exclamation. Il n'y eut rien d'autre. Nul n'osa agir. Personne ne sut avant le matin d'où provenait l'appel. Puis ceux qui y avaient répondu entreprirent d'appeler tout le monde sur la ligne. Seuls les Fry ne purent être joints. La vérité se fit jour 1 heure plus tard, quand une troupe armée rassemblée en hâte s'aventura laborieusement jusqu'à la ferme Fry, à l'extrémité de la combe. L'horrible spectacle qu'ils découvrirent ne les surprit qu'à peine. On voyait de nouvelles traces, d'autres empreintes monstrueuses, mais plus de maison. Elle avait été écrasée comme une coquille d'œuf. On ne put rien retrouver de vivant ou de mort dans ses ruines, excepté une puanteur et la poix bitumineuse. Elmer Fry et sa famille avaient été éradiqués de Dunwich. 8. Pendant ce temps, une phase plus calme, mais d'un point de vue intellectuel, plus poignante des atrocités, s'était déroulée derrière les portes closes d'une pièce d'Arkham, au mur tapissé de livres. L'étrange manuscrit de Wilbur Watelais, sans doute son journal, adressé à l'université miscatonique pour traduction, avait causé beaucoup de problèmes et suscité beaucoup d'étonnement chez les spécialistes en langue moderne comme chez ceux en langue ancienne. Son alphabet même, malgré une ressemblance de forme avec l'écriture arabe aux traits appuyés utilisés en Mésopotamie, se révélait complètement inconnu aux experts consultés. La conclusion des linguistes fut que le texte était écrit dans des caractères inventés pour former un cryptogramme, mais aucune des méthodes habituelles de déchiffrement ne semblait fonctionner puisqu'on lui avait appliqué sans succès chacune des langues que l'auteur était susceptible d'avoir utilisées comme base de son code. Les antiques ouvrages saisis chez Watelais, bien que passionnants et pour plusieurs d'entre eux prometteurs de nouvelles et terribles perspectives de recherche pour les philosophes et les hommes de science, n'apportèrent aucune aide sous ce rapport. L'un d'eux, un volume massif pourvu d'une fermeture en fer, se présentait dans un autre alphabet inconnu, d'une sorte toute différente, évoquant le sanskrit plus qu'aucune autre langue. On confia finalement l'ancien livre de contes aux soins exclusifs d'Armitage, parce qu'il s'intéressait de très près à cette affaire Watelais, était expert en linguistique et possédait en outre une solide connaissance des traditions mystiques datant de l'Antiquité et du Moyen-Âge. Armitage avait l'intuition que ces signes correspondaient sans doute à un langage ésotérique employé par certains cultes interdits venus du fond des âges, ayant hérité beaucoup de leurs rites et de leurs traditions des sorciers sarrasins. Mais cette question ne lui paraissait pas essentielle, car identifier l'origine précise des symboles ne serait pas utile si, comme il le soupçonnait, il servait seulement de caractère de cryptage d'une langue moderne. Il pensait en effet, eu égard à l'important volume de textes concernés, que l'auteur ne se serait pas donné la peine d'écrire dans une autre langue que la sienne, sauf éventuellement pour noter des formules et incantations spéciales. En conséquence, il entreprit de déchiffrer le manuscrit en partant du principe que, pour l'essentiel, il était en anglais. Après les échecs successifs de ses confrères, le docteur Armitage pressentait que l'énigme se révélerait de taille et des plus complexes. Il était donc inutile d'employer une méthode élémentaire de décryptage. Il passa toute la fin août à consolider ses connaissances en matière de cryptographie. Épuisant les ressources importantes de sa propre bibliothèque, il étudia nuit après nuit les arcanes de la polygraphie de Trithème, le De furtivis literarum notis de Giambattista della Porta, le Tracté des chiffres de Vigenère, le Cryptomanicis Patefacta de Falconer, les traités datant du XVIIIe siècle de Davy et Sickness, ainsi que ceux d'autorités modernes tels que Blair, Van Marten et Kluber. Au fil de ses lectures, il se convainquit qu'il avait affaire à un chiffrage des plus subtils et ingénieux, dans lequel les différentes listes de lettres correspondant aux signes étaient disposées comme des tables de multiplication, et le message constitué à partir de mots-clés arbitraires connus des seuls initiés. Les ouvrages anciens paraissaient mieux adaptés que les récents pour résoudre l'énigme. Et Armitage en conclut que le code du manuscrit devait être l'un de ceux employés depuis la haute antiquité et transmis à n'en pas douter par une longue lignée d'expérimentateurs versés en sciences mystiques. Plusieurs fois, elle crut toucher la solution du doigt, mais dut reculer devant des obstacles imprévus. Et puis, alors que septembre approchait, les difficultés commencèrent à s'aplanir. Certains caractères employés dans des parties spécifiques de l'ouvrage firent sens de manière définitive, sans erreur possible. Ce premier déchiffrement vint confirmer que le texte était bien en anglais. Le soir du 2 septembre, la dernière barrière notable céda, et le docteur Armitage lut pour la première fois un passage des annales de Wilbur Whately dans son intégralité. Il s'agissait bien d'un journal, ainsi que tous l'avaient supposé, écrit dans un style qui témoignait du mélange d'érudition occulte et d'ignorance générale de son étrange auteur. Une des toutes premières entrées déchiffrées par Armitage, en date du 26 novembre 1916, se révéla hautement étonnante et inquiétante. L'universitaire n'oubliait pas qu'un enfant de 3 ans et demi, mais en paraissant 12 ou 13, l'avait rédigé. Aujourd'hui, j'ai pris l'aclos pour le sabaoth et je n'ai pas aimé. On ne peut avoir de réponse que de la colline et pas de l'air. Ça, là-haut, est plus en avance par rapport à moi que j'aurais cru. On dirait qu'il ne va pas avoir beaucoup de cerveau terrestre. J'ai abattu au pistolet Jack le collet des lames Chin quand il a voulu me mordre, et Ella m'a dit qu'il me tuerait s'il osait. Je me dis qu'il ne fera rien. Grand-père m'a répété plusieurs fois la formule d'eau la nuit dernière, et je crois que j'ai vu la cité souterraine aux deux pôles magnétiques. J'irai à ces pôles quand la terre sera nettoyée, si la formule d'Ochna ne suffit pas à me faire accéder à l'autre monde quand je l'invoquerai. Ceux de l'air m'ont dit au sabbat qu'il faudrait des années avant que je puisse nettoyer la terre, et je suppose que grand-père sera mort à ce moment-là. Alors je vais devoir apprendre tous les angles et les plans, toutes les formules entre ir et ngr. Ceux du dehors m'aideront, mais ils ne peuvent pas prendre corps sans du sang humain. Ça, là-haut, devrait avoir la sorte qu'il faut. Je peux le voir un peu quand je fais le geste des Ouvors, ou souffle dessus la poudre d'Imgazi, et il ressemble à ceux de la nuit de Valpurgis sur la colline.
l'autre face va peut-être s'estomper. Je me demande à quoi je ressemblerai quand la terre sera nettoyée, sans plus aucun être vivant dessus. Celui qui est venu à l'appel à Claude du Sabaoth a dit que je serais peut-être transfiguré, parce qu'il y a beaucoup du dehors en moi. Le matin trouva le docteur Armitage couvert d'une froide sueur d'épouvante, plongé dans une intense et fiévreuse concentration. Il avait passé toute la nuit sur le manuscrit, assis à son bureau sous la lumière électrique, tournant de ses mains tremblantes page après page, aussi vite que son déchiffrement le lui permettait. Il avait donné un coup de téléphone agité à sa femme pour l'avertir qu'il ne rentrerait pas. Elle lui apporta un petit déjeuner dont il put à peine avaler une bouchée. Il l'eut encore toute la journée, contraint parfois de s'arrêter quand il fallait réappliquer la clé compliquée de cryptage. Ses ralentissements l'exaspéraient. On lui apporta à déjeuner et à dîner, mais il ne toucha presque pas au plat. Et vers le milieu de la nuit suivante, il somnola sur sa chaise épuisé, mais ne tarda pas à s'arracher à un sommeil peuplé de cauchemars confus, presque aussi affreux que les menaces bien réelles, mettant en danger l'existence de l'humanité qu'il avait mise au jour. Le matin du 4 septembre, le professeur Rice et le docteur Morgan insistèrent pour voir leur confrère et le quittèrent en tremblant, le teint gris comme cendre. Ce soir-là, Armitage se coucha, mais eut un sommeil agité. Le lendemain, mercredi, il retourna travailler sur le manuscrit et entreprit de prendre d'abondantes notes à partir des pages qu'il lisait à ce moment et de ceux qu'il avait déjà déchiffrés. La nuit suivante, il dormit quelques heures dans un fauteuil de son bureau, mais se remit au travail avant l'aube. Vers midi, son médecin, le docteur Harvell, vint lui rendre visite et l'exhorta à cesser son décryptage et à se reposer. Armitage refusa, laissant entendre que l'achèvement de ce travail revêtait une importance capitale et promettant de s'expliquer là-dessus le moment venu. Au crépuscule, il termina sa terrible lecture et s'écroula, fourbu. Sa femme, en lui apportant à dîner, le trouva à demi comateux. Toutefois, il était suffisamment conscient pour pousser un cri aigu d'alarme quand elle voulut jeter un coup d'œil aux notes qu'il avait prises. Très faible, il se leva péniblement, rassembla ses documents griffonnés et les enferma dans une grande enveloppe qui glissa sur le champ dans la poche intérieure de sa veste. Il eut la force de rentrer chez lui, mais son état exigeait de toute évidence des soins. C'est pourquoi le docteur Hartwell fut appelé. Alors qu'il aidait son patient à se mettre au lit, ce dernier ne cessa de murmurer. « Mais au nom de Dieu, que pouvons-nous faire ?» Armitage dormit, puis passa une grande partie de la journée du lendemain dans un état de semi-délire. Il ne donna aucune explication à Hartwell, mais, dans ses moments de lucidité, parlait de la nécessité impérative de s'entretenir longuement avec Rice et Morgan. Quand il divaguait, son discours avait vraiment de quoi surprendre. Il implorait avec frénésie qu'on anéantisse un être mystérieux enfermé dans une ferme aux issues condamnées et faisait référence à une espèce de plan incroyable destiné à éradiquer de la surface de la Terre toute vie humaine, animale et végétale, ourdie par une effroyable et très ancienne race d'êtres issus d'une autre dimension. Il criait que le monde était en danger parce que les anciens voulaient le dépouiller de toute vie puis l'arracher au système solaire et à l'univers physique pour le transporter dans un autre plan d'existence ou une autre dimension d'où il avait autrefois chu des trillions d'années auparavant. À d'autres moments, il demandait qu'on lui apporte cet épouvantable Necronomicon et la démonolâtrie de Nicolas Rémy, où il paraissait espérer trouver quelques formules permettant d'écarter le péril dont il parlait. « Arrêtez-les ! Arrêtez-les » s'exclamait-il. Ces Whatley avaient l'intention de les faire venir, et le pire d'entre eux reste. Dites à Rice et à Morgan que nous devons agir. Ce sera à l'aveuglette, mais je sais comment fabriquer la poudre. La chose n'a plus été nourrie depuis le 2 août, quand Wilbur a trouvé la mort en se rendant ici. Et à ce compte-là... » En dépit de ses 73 ans, Armitage était robuste. La nuit suivante, le sommeil acheva de le guérir, sans qu'il développe vraiment de fièvre. Il s'éveilla tard le vendredi, l'esprit clair mais accablé d'une crainte dévorante et du sentiment écrasant qu'il était de sa responsabilité d'agir. Dans l'après-midi du samedi,
il se sentit en état de retourner à la bibliothèque et d'y convoquer Rice et Morgan pour discuter avec eux. Les trois hommes consacrèrent la fin de la journée, puis la soirée, à échafauder les conjectures les plus extravagantes et à se perdre en débats désespérés. D'étranges et terribles ouvrages furent tirés des bibliothèques et des coffres où ils étaient précieusement gardés. On recopia avec une hâte fébrile une abondance extrême de diagrammes et de formules. Le temps n'était plus au scepticisme. Tous trois avaient vu le corps de Wilbur Whately étendu sur le sol dans ce même bâtiment. Et après une telle expérience, aucun des érudits ne se sentait le moins du monde enclin à considérer son journal comme les divagations d'un démon. Les avis divergeaient quant à la question d'avertir ou non la police de l'État du Massachusetts, et on décida en fin de compte de s'abstenir. Certains des éléments en cause, tout simplement, n'avaient aucune chance d'être acceptés par quiconque n'en avait pas été directement témoin. L'enquête qui fut menée après les faits confirma d'ailleurs sans équivoque cette idée. La réunion prit fin au cœur de la nuit. Les participants se séparèrent sans avoir établi de plan bien arrêté, mais Armitage passa tout son dimanche à comparer des formules et à mélanger divers produits chimiques qu'il s'était procurés dans le laboratoire de l'université. Plus il réfléchissait, plus il doutait de l'efficacité d'un quelconque moyen matériel pour éliminer l'entité que Wilbur Whately avait laissée derrière lui. Cette entité qui menaçait le monde et qui, sans que le docteur le sût, s'apprêtait à se manifester d'une manière si brutale comme l'inoubliable horreur à Dunwich. Le lundi se déroula comme la veille pour Armitage. Sa tâche exigeait d'infinies recherches et expérimentations. Diverses vérifications dans le monstrueux journal de Wilbur Whately entraînèrent des ajustements au plan d'origine. Pour autant, le docteur savait que, jusqu'à la fin, demeurait une part d'incertitude. Le jour suivant, mardi, il dressa une liste précise d'actions à entreprendre et envisagea de tenter une expédition à Dunwich dans la semaine. C'est alors que le mercredi parvint la terrible nouvelle. Un entrefilet facétieux glissé dans l'Arkham Advertiser et relayé par la société de presse mettait en cause le whisky de contrebande fabriqué à Dunwich, qui avait cette fois fait sortir des limbes un monstre prodigieux. Armitage, à moitié assommé, eut tout juste la force de téléphoner à Rice et Morgan. Ils discutèrent jusque tard dans la nuit et consacrèrent le lendemain à des préparatifs éclairs. Armitage se rendait bien compte que ses compagnons et lui s'apprêtaient à réveiller d'abominables pouvoirs, mais aussi qu'il n'existait pas d'autre moyen d'allumer les manœuvres plus élaborées et maléfiques initiées par d'autres. 9. Le vendredi matin, Armitage, Rice et Morgan partirent en voiture pour Dunwich, où ils arrivèrent vers 13 heures. La journée était belle pourtant. Même si le soleil brillait, une sorte d'épouvante silencieuse et de mauvais augure semblait planer sur les collines à la forme étonnante de dôme et les profonds ravins ombreux de la malheureuse contrée. De temps à autre, au sommet de certains monts, se silhouettait contre le ciel un sinistre cercle de pierre. En voyant l'expression d'effroi muet des clients de l'épicerie d'Osborne, les voyageurs surent que quelque chose de terrible s'était produit. Ils ne tardèrent pas à apprendre l'anéantissement de la ferme et de la maisonnée d'Elmer Fry. Ils passèrent l'après-midi à parcourir Dunwich en interrogeant les habitants sur ce qui s'était passé et visitèrent avec un sentiment d'horreur croissant les affreuses ruines du domaine Fry. Ils virent les flaques de poix bitumineuses, les abominables empreintes dans la cour, puis le bétail blessé de cette bishop, et un peu partout, les énormes amas de végétation arrachée et piétinée. La large piste qui gravissait et descendait Sentinel Hill parut pour Armitage porter une signification presque cataclysmique. Il regarda longtemps la sinistre pierre tabulaire, semblable à un autel au sommet de l'éminence. Enfin, les trois savants, informés que des agents de la police de l'État étaient venus d'Aylesbury le matin même, après avoir été avertis par téléphone de la tragédie survenue chez les Fry, décidèrent d'aller à leur rencontre pour, autant qu'il était possible, discuter avec eux de la situation. Mais la chose s'avéra plus facile à dire qu'à faire, parce que les policiers demeurèrent introuvables. Ils étaient arrivés à 5 dans une voiture encore garée près des ruines du domaine Fry. Les habitants de Dunwich qui avaient parlé aux agents parurent tout d'abord aussi étonnés qu'Armitage et ses compagnons. Mais soudain, le vieux Sam Hutchins repensa à quelque chose et blêmit. Il donna un coup de coude à Fred Farr en montrant du doigt l'abîme humide et profond qui baie non loin de là.
« Pas le Dieu, octa-t-il. Je leur avais dit de point descendre dans la combe. Et j'aurais jamais cru qu'ils iraient avec les traces et l'odeur des engoulevins qui piaillent au fond dans le noir alors qu'il fait jour. »
Un frisson glacé parcourut l'échine des autochtones comme celle des étrangers, et tous tendirent instinctivement l'oreille. Armitage, à présent qu'il était de fait proche de l'horreur et de ses monstrueux agissements, tremblait à l'idée de la responsabilité qui, estimait-il, lui incombait. La nuit tomberait bientôt, et avec elle viendrait le moment où ce blasphème titanesque reprenait ses courses surnaturelles. Negotium perambulans in tenebris. Le vieux savant se répéta la formule qu'il avait mémorisée et serra dans son poing le papier sur lequel il en avait inscrit une autre de secours qu'il n'avait pas apprise par cœur. Puis il vérifia que sa lampe de poche fonctionnait bien. Rice, à côté de lui, sortit d'une valise un pulvérisateur en métal, comme ceux qu'on utilise contre les insectes, et Morgan se munit du fusil à gros gibier, dont il comptait bien se servir, même si ses confrères l'avaient averti qu'aucune arme matérielle ne serait d'une aide quelconque. Après avoir lu l'atroce journal de Wilbur Whately, Armitage savait bien, hélas, à quelle sorte de manifestation s'attendre, mais il refusait d'ajouter à l'épouvante des gens de Dunwich en leur donnant tel ou tel indice. Il espérait réussir à vaincre l'être épouvantable sans devoir révéler au monde à quel abominable destin il avait échappé. En voyant les ombres s'épaissir, l'assemblée commença à se disperser. Chacun avait hâte de se barricader chez soi, malgré l'inutilité criante des verrous et serrures devant une force capable de plier les arbres et d'écraser les maisons selon son envie. Les autochtones secouèrent la tête en entendant les visiteurs exprimer leur intention de monter la garde dans les ruines de la maison Fry, près de la combe. En les quittant, ils pensaient ne plus jamais les revoir. On entendit la terre gronder sous les collines cette nuit-là, et les engoulevents piailler leurs menaces. De temps en temps, une brise en provenance de la combe froide apportait une bouffée de puanteur indescriptible dans l'air nocturne chargé d'humidité. Cette odeur, les trois observateurs l'avaient déjà sentie une fois, tout près d'un être à l'agonie qui s'était fait passer pour humain pendant plus de 15 ans. Mais l'horreur attendue ne se montra pas. Quoi qu'il y eût en bas dans cette combe, cela prenait son temps. Armitage dit à ses confrères qu'ils seraient suicidaires de tenter une attaque dans le noir. Le petit matin vint, blême, et les bruits nocturnes s'apaisèrent. C'était un jour morne et gris avec des ondées sporadiques. Des nuages de plus en plus noirs semblaient s'amasser au-delà des collines vers le nord-ouest. Les universitaires venus d'Arkham ne savaient trop quoi faire. Après avoir cherché sous un des rares hangars encore debout du domaine Fry un abri contre la pluie de plus en plus forte, ils débattirent de la sagesse d'attendre ou, au contraire, de tenter une offensive en descendant dans la combe en quête de leur proie innommable et monstrueuse. Le déluge redoubla et de lointains coups de tonnerre résonnèrent à l'horizon. Des éclairs faisaient scintiller le rideau de pluie par intermittence, mais soudain un trait de foudre zigzagant illumina le paysage tout près, comme s'il avait frappé le gouffre maudit. Le ciel s'assombrit terriblement après cela. Les trois compagnons espérèrent que la tempête ne durerait pas et que le temps reviendrait au beau. Mais il faisait toujours aussi affreusement sombre quand, environ une heure plus tard, les échos confus de voix leur parvinrent de la route. Quelques instants plus tard, ils virent arriver en courant une bonne dizaine d'hommes apeurés qui criaient, et certains même geignaient, frappés d'hystérie. L'un d'eux, en tête de la troupe, commença à bredouiller entre deux sanglots, et les visiteurs eurent un violent sursaut lorsqu'il réussit enfin à s'exprimer de manière cohérente. « Oh mon Dieu » hocta-t-il. « Il revient en plein jour. L'air monté, il bouge, le Seigneur sait quand il sera sur nous autres. » Celui qui avait parlé se tut haletant, mais un autre prit la suite.
« Il y a bientôt une heure, Zeb Whately, la oui au téléphone qui sonnait, et c'était Mme Corey, la femme à Georges qui vit près de la fourche. Elle dit que leur garçon de ferme, Luther,
Ils ramenaient les vaches à cause de la tempête après le gros éclair. Et que là, vu tous les troncs pliés à l'orée de la combe, de l'autre côté par rapport à ici, et que la sentit la même puanteur affreuse, comme quand qui avait trouvé les grandes traces au matin de lundi. Et elle dit qu'il y avait comme un bruit, que quelque chose qui frotte, qui clapote, ben plus fort et différent que ce que pouvaient faire les arbres et les buissons. Et puis que tout soudain, le long de la route, les plantes se sont mises à être poussées sur le côté, et que ça piétinait et que ça éclaboussait dans la boue, quelque chose de terrible. Mais attendez, Luther l'a rien vu du tout, juste les troncs et les broussailles qui se pliaient. Et puis par devant, là où ce que le rue Bishop y passe sous la route. Il a entendu le pont qui craquait, comme prêt à céder. Ça faisait peur, et il dit que le bois dessus, il commençait à se fendre, là-bas, oui. Et tout ce temps, ben, il n'a pas rien vu du tout, juste les arbres et les buissons qui se pliaient. Et alors, le bruit de glissement l'est parti loin par la route, vers chez le sorcier Watley et Sentinelle Hill. Et Luther l'a eu le cœur d'avancer pour regarder par terre, là où ce qu'il y avait eu d'abord tout fut fracas. C'était plein d'eau et de boue. Il faisait noir. La pluie allait effacer tout à toute vitesse, mais à partir de l'orée de la combe, là où les arbres ils avaient bougé, on voyait ces méchantes empreintes grosses comme des barriques, les mêmes que celles de lundi.
Celui qui avait parlé en premier coupa alors la parole à son voisin.
« Mais c'est même plus ça le problème, c'était que le début. Zeb là, il a appelé tout le monde et tout le monde écoutait quand il y a eu un appel de cette bishop. Sa ménagère, Sally, elle criait comme si qu'on l'égorgeait. Elle venait de voir les troncs qui commençaient à plier à côté de la roue et elle disait qu'il y avait comme un bruit d'écrasement, comme si qu'un éléphant y soufflait et y se traînait sur la route vers la maison. Et puis tout soudain, elle parlait d'une odeur affreuse et elle a dit que son garçon chaunçait. Il hurlait comme quoi c'était tout juste pareil à quoi elle avait senti lundi matin vers les ruines de Watley. Et les chiens, ils aboyaient et ils geignaient quelque chose de terrible. Alors elle a poussé le cri le plus atroce et elle dit que la grange plus loin sur la route, elle venait s'écrouler comme si que la tempête l'avait abattue. Sauf que le vent n'était pas assez fort pour faire ça. Tout le monde sur la ligne écoutait et on entendait beaucoup qu'ils avaient des hoquets. Et tout soudain, Sally, elle criait encore. Elle dit que la barrière de bois devant, elle venait juste de tomber, mais sans qu'il y ait aucun signe de quoi qui ait fait ça. Alors tout le monde sur la ligne, là oui. Chauncey et le vieux Bishop qui hurlaient aussi. Et Sally, elle beuglait que quelque chose lourd l'avait frappé la maison. Pas la foudre, ni pas autre chose, mais un machin lourd comme le devant, qui se jetait dessus encore et encore alors qu'on n'y voyait pas rien par les fenêtres. Et puis...
L'effroi creusait chaque visage. Armitage bouleversé eut à peine la force d'encourager celui qui parlait à continuer.
Et puis... Sally, elle a encore crié. « Aidez-nous, la maison, elle s'écroule !» Alors sur la lit, on a tous, oui, un affreux gros bruit et tout un troupeau de cris. Tout juste comme quand la ferme Fry est tombée, mais bien pis encore.
L'homme se tut et un autre prit le relais.
Et c'était tout. Rien comme bruit ou cri dans le téléphone après ça. Le silence. Nous qu'on avait, oui, on a sorti les voitures et les carrioles et on a rassemblé autant de gars qu'on a pu chez Corée. Et on est venu ici pour voir ce que vous pensez qu'il faut faire. Mais moi, je crois que c'est le jugement de notre Seigneur pour nos iniquités et qu'aucun mortel n'y peut pas l'éloigner.
Armitage comprit que le temps était venu d'agir et s'adressa d'un ton décidé au groupe chancelant de campagnards épouvantés.
« Nous devons suivre ce monstre, mes amis. »
Il tâcha de donner à sa voix les inflexions les plus rassurantes possibles.
Je pense que nous avons une chance de mettre fin à ces agissements. Vous savez que les Watney étaient des sorciers. Eh bien, cet être a été créé par sorcellerie et on doit l'abattre par les mêmes moyens. J'ai lu le journal de Wilbur Watley et certains des bizarres vieux livres qu'il utilisait. Et je crois savoir quel type de sort réciter pour faire disparaître cette chose. Bien sûr, on n'a aucune garantie, mais on peut toujours tenter notre chance. C'est invisible, cela je m'y attendais. Mais dans ce pulvérisateur à longs jets, nous avons placé une poudre qui pourrait révéler un instant son aspect. Nous l'essaierons plus tard. Je sais, c'est terrible que cet être soit vivant parmi nous, mais si Wilbur avait vécu, il aurait fait venir bien pire encore en ce monde. Vous ne saurez jamais à quoi notre terre a échappé. Là, nous n'avons qu'un monstre à combattre, et il ne peut pas se multiplier, mais il est en mesure de faire beaucoup de mal. Aussi ne devons-nous pas hésiter à en débarrasser la communauté. Nous allons suivre ses traces, donc, et il nous faudra commencer par l'endroit qu'il vient tout juste de ravager. Que l'un d'entre vous nous indique la route à suivre. Je ne connais pas très bien vos chemins, mais je me dis qu'il doit exister un raccourci à travers champs. Par où faut-il passer ?
Pendant quelques instants, les hommes rechignèrent à répondre. Puis Earl Sawyer, pointant un doigt sale sous la pluie qui diminuait régulièrement, déclara à mi-voix.
« Je crois que le plus rapide pour aller chez cette Bishop, ce serait de couper par la pâture basse, là, traverser le ruisseau à gué tout en bas, et puis d'en grimper par le pré de carrier et la coupe de bois après. On arrive sur la route par au-dessus, tout près de la maison de l'autre côté. »
Armitage, accompagné de Rice et de Morgan, partit dans la direction indiquée, et la plupart des hommes suivirent d'un pas lent. Le ciel s'éclaircissait. Il semblait que la tempête ait épuisé sa force. À un moment, le docteur se trompa de chemin. Joe Osborne le héla et prit la tête du groupe pour montrer le bon. Le courage et la confiance de tous revenaient, même si le moral de tous fut sévèrement mis à l'épreuve lorsqu'ils durent gravir à la fin du raccourci, dans une demi-obscurité, une pente presque verticale au milieu de 13 anciens arbres, qui les obligea à progresser comme sur une échelle. Finalement, ils débouchèrent sur une route boueuse et virent le soleil apparaître derrière les nuages. Ils se trouvaient un peu au-dessus de la maison de cette Bishop, mais les trompliers et les empreintes hideusement reconnaissables montraient quel monstre était passé là. La petite troupe ne consacra que quelques instants à inspecter les ruines juste après le virage. La tragédie des Fry s'était répétée. Aucun être vivant, ni mort, ne fut retrouvé dans les coquilles effondrées qui avaient constitué le corps de ferme et la grange. Personne n'avait envie de s'attarder au milieu de cette puanteur et des flaques de poids bitumineuses, et chacun se tourna d'instinct vers les terribles empreintes qui se dirigeaient vers le domaine ravagé des Watley, puis vers les pentes de Sentinel Hill au sommet desquelles trônait la pierre autel. En passant près de la demeure de Wilbur Watley, les hommes frémirent visiblement, et une certaine hésitation parut de nouveau altérer leur détermination. Ce n'était pas rien de traquer une créature invisible de la taille d'une maison, et aussi malfaisante qu'un démon. Au pied de Sentinel Hill, les empreintes quittaient la route. On remarquait un écrasement tout frais de la végétation le long de la piste grossière que le monstre avait tracée en allant puis en revenant du sommet. Armitage sortit une longue-vue d'un très fort grossissement et l'utilisa pour examiner l'abrupt flanc verdoyant de la colline. Puis il tendit l'instrument à Morgan, dont la vue était plus perçante. Après quelques instants de scrutation, le savant poussa un cri bref et passa la lunette à Earl Sawyer en lui indiquant du doigt un point bien précis sur la colline. Sawyer, peu habitué aux instruments optiques, tâtonna d'abord gauchement, mais grâce à l'aide d'Armitage, finit par ajuster les lentilles. Il poussa alors une exclamation beaucoup moins discrète que celle de Morgan.
« Par le Seigneur Tout-Puissant, l'herbe et les broussailles, elles bougent. Ça monte tout doucement, ça rampe vers le sommet. Le ciel seul sait pourquoi y faire. »
C'est alors qu'un vent de panique parut souffler sur l'expédition. C'était une chose de pourchasser une entité sans nom et une autre de la trouver.
Les sorts, oui, peut-être fonctionneraient-ils. Mais dans le cas contraire, quelques voix s'élevèrent pour demander à Armitage ce qu'il savait au juste de la créature, et aucune des réponses du docteur ne parut donner entière satisfaction. Chacun se sentait trop proche des mystères de la nature, de ces éléments radicalement interdits, hors de toute expérience humaine acceptable.
10. Finalement, les trois visiteurs d'Arkham, le vieux docteur Armitage à la barbe blanche, le trapu et grisonnant professeur Rice, le jeune et mince docteur Morgan, entreprirent seuls l'ascension de la montagne. Après avoir patiemment expliqué comment régler et utiliser la longue-vue, ils la laissèrent aux mains du groupe apeuré resté sur la route. Tandis qu'ils grimpaient, ils furent observés de près par les campagnards qui, à tour de rôle, se passaient l'instrument. La pente était raide. Il fallut plus d'une fois aider le docteur Armitage. Plus haut, au-dessus des trois hommes qui avançaient avec peine, la large piste tremblait comme le monstre qu'il avait tracé au départ y repassait avec la lenteur d'un escargot opiniâtre. Il devint alors évident que les poursuivants gagnaient du terrain. C'est Curtis Watley, de la branche saine de la famille, qui tenait l'instrument quand les savants venus d'Arkham dévièrent complètement de la piste infernale. Il expliqua au reste du groupe que, de toute évidence, les étrangers tâchaient de gagner un pic secondaire qui surplombait le chemin que la créature suivait, situé très en avant du point où la végétation ployait actuellement sous le poids du monstre. Il avait raison. Les trois hommes parurent atteindre l'éminence peu de temps avant que l'entité invisible passe en dessous. Puis Wesley Corey, et qui avait pris la longue-vue, s'écria qu'Armitage réglait le pulvérisateur porté par Rice et qu'il allait sûrement se passer quelque chose. Le groupe inquiet s'agita un peu. Chacun se rappelait que cet appareil devait permettre de voir un instant l'horreur invisible. Deux ou trois hommes fermèrent les yeux, mais Curtis Watley arracha la lunette à Corey et scruta la colline avec intensité. Il comprit que, en raison de leur position, à la fois au-dessus et un peu en arrière du monstre, les étrangers d'Arkham avaient toutes les chances d'obtenir d'excellents résultats avec leur étonnante poudre. Ceux qui ne disposaient pas d'adjuvants optiques virent seulement près du sommet de la montagne une nuée grise fugitive de la taille d'une belle maison. Mais Curtis, qui tenait alors l'instrument, poussa un hurlement perçant et le laissa choir dans la boue de la route qui montait jusqu'aux chevilles. L'homme tituba et se serait effondré si deux ou trois autres ne l'avaient retenu. Il ne pouvait que gémir des paroles presque inaudibles.
« Oh, par Dieu ! Ça ! Ça !»
Un tumulte de questions s'ensuivit aussitôt. Seul Henry Wheeler eut la présence d'esprit de ramasser la longue-vue et de l'essuyer. Curtis arrivait à peine à former ses mots, et une réponse claire lui semblait impossible.
« Plus gros qu'une grange, tout fait de cordes qui grouillent, un truc comme une coque de la forme d'un œuf de poule plus gros que n'importe quoi avec des dizaines de pattes comme des barriques qui s'écrasent à moitié quand ça marche. Rien de solide là-dedans, tout comme de la gelée, et fabriqué avec des cordages collés ensemble qui se tortillent. Des gros yeux tout partout là-dessus. 10 ou 20 bouches ou bains, des trombes qui ressortent par tous les côtés, grosses comme des tuyaux de cheminée, et qui s'ouvrent et qui se ferment. Gris tout ça, avec des espèces d'anneaux bleus ou mauves. Et par le Seigneur, en haut des cieux, cette moitié de face au sommet. »
Cette dernière image, quelle qu'elle fût au juste, se révéla trop bouleversante pour le malheureux Curtis qui perdit complètement conscience sans rien pouvoir ajouter. Fred Farr et Will Hutchins le portèrent sur le bas-côté de la route et l'allongèrent dans l'herbe humide. Henry Wheeler, tout tremblant, tourna la longue-vue vers la montagne pour voir ce qu'il pourrait. Il distingua 3 minuscules silhouettes qui semblaient courir vers le sommet aussi vite que le permettait la rude montée. Il n'y avait qu'elles, et puis tous les hommes remarquèrent qu'un étrange bruit, incongru en cette saison, retentissait dans la vallée profonde derrière eux et même dans les sous-bois de Sentinel Hill. Il s'agissait du piaillement d'innombrables engoulevents. Dans leur cœur strident semblait se tapir une pointe de tension et d'impatience malveillante. Earl Sawyer s'empara alors de l'instrument optique. Il indiqua que les 3 silhouettes se tenaient sur la crête, à l'endroit le plus élevé, situé pratiquement à la même hauteur que la pierre autel, mais assez loin d'elle. L'un des savants, ajouta-t-il, levait apparemment les mains au-dessus de la tête selon un rythme régulier. En même temps que Sawyer donnait cette information, le groupe put entendre au loin les faibles échos d'un son à demi musical, comme si une psalmodie chantée très fort accompagnait les gestes. Cette vision étrange d'une silhouette gesticulant au sommet d'un pic devait constituer un spectacle à la fois très impressionnant et grotesque, mais aucun des témoins n'était d'humeur à émettre une appréciation esthétique.
« Je crois qu'il prononce le sort, »
chuchota Wheeler en reprenant le télescope d'un geste brusque. Les engoulevents piaillaient sans retenue sur un rythme étonnant dont l'irrégularité n'avait rien, semblait-il, rien à voir avec celle du rituel. Soudain, la lumière du soleil parut diminuer sans qu'aucun nuage n'en soit responsable. Le phénomène était des plus curieux et tous s'en étonnèrent. Un grondement semblait couver sous les collines, bizarrement mêlé à un autre avec lequel il s'accordait et qui provenait sans équivoque du ciel. Des éclairs brillèrent dans les airs, et les paysans perplexes cherchèrent en vain des indices de tempête. Par ailleurs, le doute n'était plus permis. Les visiteurs d'Arkham psalmodiaient des formules rituelles. Wheeler, dans la lunette, les vit tous lever les bras en rythme avec l'incantation. Dans une ferme au loin, des chiens aboyèrent furieusement. L'altération de la clarté du jour s'intensifia. Chacun ébahi observa l'horizon. Une obscurité mauve provoquée simplement par l'assombrissement spectral du bleu céleste pesait sur les collines grondantes. Puis de nouveaux éclairs illuminèrent le ciel, plus brillants que les précédents, et les témoins eurent l'impression que, tout là-haut, une espèce de brume s'était formée autour de la pierre autel. Mais personne à cet instant ne regardait dans la longue vue. Les engoulevents persistaient dans leurs cris au tempo irrégulier, et les hommes de Dunwich se crispèrent devant la menace indéterminée qui semblait saturer l'atmosphère. Sans avertissement se fit alors entendre le son d'une voix profonde, brisée, rauque, qui resterait à tout jamais gravée dans la mémoire des témoins frappés de stupeur. Aucune gorge humaine n'avait pu le produire, car les organes vocaux de l'humanité sont incapables d'émettre ce genre de perversion acoustique. On aurait plutôt dit ce bruit surgit de la combe, si sa source n'avait si indéniablement été la pierre autel tout en haut. En fait, il est presque impropre de parler de bruit, dans la mesure où l'épouvantable timbre infrasonique s'adressait à des régions obscures de la conscience et de la terreur, bien plus subtiles que la simple oui. Pourtant, il le faut bien, dans la mesure où le phénomène prit la forme indiscutable, bien qu'imprécise, de mots semi-articulés. Le son était retentissant, autant que les grondements souterrains et le tonnerre aérien auquel il faisait écho, mais ne provenait d'aucun être visible. Et parce que l'imagination suggérait qu'il avait pour origine la créature invisible, la petite troupe blottie au pied de la colline se serra un peu plus. Chaque visage se tendit comme dans l'attente d'un coup.
« Yagn, Yagn, Tvnga, Yaksoto !»
résonnait le son hideux issu du vide.
« Ntink, Ntngla !»
Le besoin de s'exprimer parut alors vaciller, comme si un abominable conflit psychique avait lieu. Henry Wheeler colla son œil à la longue-vue, mais ne vit que les trois silhouettes humaines qui se détachaient de façon grotesque sur le sommet. Elles agitaient furieusement les bras en effectuant des gestes bizarres, tandis que leur incantation approchait de son apogée. Dans quel puits noir de sentiments ou de craintes dignes de l'Achéron, dans quel gouffre inexploré de conscience extra-cosmique, ou d'obscure hérédité longtemps restée en sommeil, ces croassements de tonnerre semi-articulés puisaient-ils? À cet instant, ils parurent reprendre de la force, de la cohérence, et s'élevèrent en une absolue, totale et ultime frénésie.
« Hey-ya! Hey-ya! Go! Go! Aide-moi, père Yoxoto !»
Il n'y eut rien d'autre. Les témoins blêmes de l'événement, vacillant encore sous le choc des syllabes compréhensibles qui avaient jailli, rauques étonnantes, de l'impossible espace vide près de l'ignoble pierre autel, ne devaient plus jamais les entendre. Mais ils sursautèrent violemment à l'effroyable bruit d'explosion qui parut alors retentir dans les sommets. Un assourdissant et cataclysmique fracas dont personne ne put identifier la source. Il s'agisse du ciel ou du tréfonds de la terre. Le ciel violet envoya un unique éclair qui vint frapper la pierre maudite et un raz-de-marée de force aveugle accompagné d'une puanteur indescriptible balaya les flancs de la colline puis toute la contrée environnante. Arbres, herbes et buissons en furent cinglés avec fureur et les hommes du groupe épouvanté au pied de la colline, affaiblis par la pestilence qui faillit les asphyxier, tombèrent presque à la renverse. Des chiens au loin hurlèrent et la verdure prit une curieuse teinte jaune-gris malsaine. Les champs et les forêts se retrouvèrent soudain jonchés d'engoulevents morts. L'affreuse odeur se dissipa rapidement, mais la végétation n'allait jamais retrouver sa pleine vigueur. Aujourd'hui encore, il y a quelque chose d'étrange et d'inquiétant dans les plantes qui poussent sur cette affreuse éminence et aux alentours. Curtis Watley venait à peine de reprendre conscience lorsque les étrangers venus d'Arkham achevèrent de descendre lentement la colline sous les rayons d'un soleil de nouveau brillant et pur. L'air grave et songeur, il semblait sous le coup de souvenirs et de pensées plus atroces encore, que celle ayant réduit les paysans à un silence tremblant. Assaillis de questions confuses, ils se contentèrent de secouer la tête et de confirmer un fait essentiel.
« La créature a disparu à tout jamais, » assura Armitage. « Elle a été réduite à ses éléments constitutifs et rien ne pourra la rendre à l'existence. Elle représentait une impossibilité dans un monde normal. Seule une infime partie de son être était formée de matière dans le sens où nous l'entendons. Elle était comme son père et, pour l'essentiel, elle est retournée à lui, dans une sorte de royaume indéfini ou une dimension hors de notre univers. Je parle d'un vague abysse, d'où seul ont pu l'arracher pendant un temps pour la faire venir sur ces collines les rites les plus abominables créés par le génie dont fait preuve l'humanité pour le blasphème. »
Un bref silence suivit cette déclaration, durant lequel les sens égarés du malheureux Curtis Watley ramenèrent tant bien que mal à sa conscience un sentiment de continuité. Il porta les mains à sa tête et se mit à gémir. Les souvenirs lui revenaient et l'atrocité de la vision qui l'avait abattu le frappa de nouveau.
« Oh mon Dieu, cette moitié de face en haut, avec les yeux rouges, les cheveux crépus d'un albinos, point de menton, comme les Watley. C'était un truc du genre pieuvre ou mille pattes ou araignée, mais il y avait une moitié de face en haut et elle ressemblait à celle du sorcier Watley, mais elle faisait des mètres et des mètres de large. »
Il se tut, fourbu, tandis que le groupe entier le dévisageait avec stupéfaction, sans toutefois de terreur supplémentaire. Seul le vieux Zébulon Watley, qui conservait vaguement le souvenir des anciens événements, prit la parole pour la première fois.
« Il y a 15 ans de ça, » balbutia-t-il. « J'ai ouï le grand-père Watley, qui disait qu'un jour on ouirait un enfant de Lavina, crier le nom de son père en haute sentinelle île. »
Joe Osborne l'interrompit pour interroger de plus belle les savants d'Arkham.
« Mais c'était quoi, finalement, et comment que le jeune sorcier Watley l'y a fait venir de l'air où ce que c'était ?»
Armitage, dans sa réponse, choisit ses mots avec soin.
C'était, eh bien, pour l'essentiel, il s'agissait d'une force qui n'appartient pas à notre univers, une force qui agit, croit et prend forme en suivant d'autres lois que celles de notre nature. Nous n'avons pas, jamais, à invoquer ces êtres existants hors de notre monde. Seules les personnes et les cultes les plus maléfiques tente ce genre d'expérience. Il y avait un peu de cette entité en Wilbur Watley, suffisamment pour faire de lui un monstre abominable au développement rapide et pour que son agonie constitue un spectacle vraiment terrible. Je vais brûler son maudit journal. Et vous, si vous avez un peu de bon sens, devriez dynamiter cette pierre autel là-haut avant d'abattre tous les cercles de pierre levés au sommet des autres collines. Ce sont ces installations qui ont attiré ici les êtres qu'appréciaient tant les Watley, ceux qu'ils voulaient voir littéralement éliminer la race humaine et entraîner notre terre vers un endroit innommable, dans un but tout aussi innommable. Quant à cette chose que nous venons d'expulser, les Watley l'avaient élevée pour qu'elle prenne une part hideuse dans leur projet. Elle a grandi vite est devenu énorme pour la même raison qui a rendu si rapide la croissance de Wilbur. La sienne a été bien plus impressionnante que celle du jeune Watley, parce que cet être comportait une plus grande part de cet abysse extérieur. Vous avez tort de demander comment Wilbur a pu le faire venir de nulle part. Il ne l'a pas invoqué. Il s'agissait de son frère jumeau qui ressemblait davantage que lui à leur père.